Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé.
Et tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les... Non.
Mais qu'il y avait des vins dans cette galère?
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Qu'il y avait des bois l'autre problème?
Cela est vrai, mais faites promptement, vous dites galère!
Alors, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans notre émission de Scènes de vie, vie de scène du mois de mai 2013. Bonjour JC.
Bonjour.
Bonjour. Une fois encore, nous prendrons le temps d'aller à la rencontre des artistes et d'attirer votre attention sur l'actualité culturelle locale. Et aujourd'hui, en plateau, nous accueillons Cécile Bordier, coordinatrice et programmatrice du Festival de la Fête aux Pieds au service enfance de la ville d'Évreux. Bonjour Cécile.
Bonjour Cécile.
Puis, nous parlerons des artistes de la rupture.
Et oui, nous aurons une seconde invitée avec Carel Pruniaud, metteuse en scène et comédienne de La Confusion, texte de Marie Nimier, qui sera présentée le 17 mai à Évreux.
Nous irons faire un tour du côté de la Madeleine, à Évreux, toujours, où la scène nationale programme un spectacle de cirque qui s'intitule Passe Nord. Et puis bien sûr, notre traditionnel agenda. Et ce mois-ci, un petit tour en Nouvelle-Calédonie avec nos musiques du monde et la musique kanak.
Et je vous propose tout de suite d'attaquer par notre traditionnelle prise de son, un moment de vie. Coupé très sévèrement, j'ai envie de vous dire. Exactement. Alors, Nathalie, quel est ce moment de vie? D'où vient-il?
C'était vraiment un moment de vie dans les rues d'Évreux, du centre-ville d'Évreux, puisque c'était la fanfare des Faux Frères qui s'est présentée il y a 15 jours, samedi matin, à l'époque, sur la période du marché. Et c'est donc une fanfare à danser et à chanter. Et là, ils nous proposaient un twist devant le manège de la place d'eau. Voilà, c'était programmé dans le cadre du festival L'Oreille du Cyclone, programmé par la scène nationale.
Mais très bien, ça donnait envie de danser et d'aller jouer finalement avec les musiciens.
Et d'ailleurs,
ça donne envie de jouer.
Et d'ailleurs, ça dansait, hein, ça dansait dans la rue. La déambulation a commencé à 10h, c'est terminé à 12h30 et il y avait tout le groupe de fans au fur et à mesure qui suivaient la troupe et la compagnie dans les rues d'Évreux et notamment une petite fille qui, on peut dire, s'est totalement éclatée à danser tout le long du parcours. Voilà.
Eh bien, très bien. Je vous propose, avant d'échanger avec Cécile Bordier, une première pause musicale choisie par tes soins. Cécile?
Hey Baby par Stéphane Marley, de son album acoustique Mind Control.
Mmh. tumbling. It's a joy when I sit down and think. Good times that we had.
Voilà, et court extrait, Cécile, de Stephen Marley, sûrement l'introduction du morceau que nous diffuserons un peu plus tard.
C'est ça, c'était pour juste vous mettre en appétit.
Quelle riche idée. Nous recevons, comme nous le disions en début d'émission, Cécile Bordier qui coordonne, qui programme le festival La Fête aux Pieds, l'événement La Fête aux Pieds, à destination des familles et plus particulièrement quand même avec une porte d'entrée au niveau des enfants et notamment les centres de loisirs qui travaillent durant l'année sur cet événement, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Je vous vois me regarder avec des yeux qui approuvent pas forcément ce que je suis en train de dire.
Non, si, tout à fait. C'est le public de l'événement de la Fête aux Pieds, il est ouvert, il est large. C'est de 0 à 177 ans si on peut vivre jusque-là. Après, au niveau du public participant à l'événement, c'est effectivement le public des enfants d'accueil de loisirs qui, eux, ont déjà commencé depuis le mois de janvier à danser, à faire du clown, à apprendre à faire du théâtre d'ombre pour participer.
Alors, dans cette programmation, va se mêler les propositions des enfants, le travail qu'ils ont effectué depuis janvier.
Les présentations, les ateliers d'enfants.
Voilà, et ça va se mêler aux présentations de compagnies professionnelles. Est-ce qu'au bout d'un moment, c'est important d'aller mélanger ces publics? Quel est l'intérêt, finalement, de proposer des plateaux avec le travail très amateur d'enfants et le travail très professionnel de professionnels, voilà.
Alors, c'est même pas au bout du compte, c'est au début du compte, puisque cette manifestation, le principe est celui-là depuis le départ. Il n'est pas simplement de présenter des ateliers d'enfants, comme ça peut se faire dans les accueils de loisirs tout au long de l'année et partout, uniquement pour un public de familles, de parents qui viennent voir leurs enfants. Il est bien d'avoir ce regard croisé de l'enfant sur le travail de l'artiste, des familles sur le travail de l'artiste, et de proposer aussi à tout public, c'est pour ça que j'insiste sur une manifestation qui est vraiment ouverte à tout public et intéressante pour tout public, de venir voir des présentations professionnelles d'artistes de danse et autres, et de voir comment l'artiste peut travailler avec un public amateur, qu'il soit enfant ou adulte.
Quel est l'intérêt? Alors, j'ai bien des éléments de réponse, mais je vais quand même vous poser la question. Quel est l'intérêt, au bout d'un moment, d'apporter cette culture artistique à nos enfants qui sont en plein dans les apprentissages fondamentaux? Et pourquoi, au bout d'un moment, venir leur faire une proposition culturelle? Pourquoi les amener sur ce terrain artistique?
Parce que ça fait partie des apprentissages fondamentaux, tout d'abord, en dehors des apprentissages éducatifs habituels, et puis habituellement entendus ou compris, fondamentaux dans le sens où ça peut leur permettre, eux, d'éprouver des émotions, de s'ouvrir à l'art, et aussi donc d'exercer leur sens critique, mais d'ouvrir tout un monde qui est en dehors du monde de l'école, qui est primordial, bien sûr, mais la société ne s'arrête pas à l'école et est ouverte sur bien d'autres choses, dont l'art et la culture. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question.
Oui, ça répond en tout cas à mes interrogations.
Et puis, je pense que ça va même au-delà, parce que c'est la 5e édition là, du festival cette année. On se l'est dit tout à l'heure. Mais finalement, on cultive nos enfants, tout part de là. Et cette année en est la preuve concrète, on cultive aussi les adultes, parce qu'il y a eu tout un projet, il y a plusieurs projets aussi en direction des animateurs qui sont donc eux adultes et qui eux-mêmes se cultivent par le biais de la Fête aux Pieds en fait.
Les animateurs qui encadrent eux les enfants, on ne peut pas imaginer avoir un rapport entre les artistes et les enfants et les animateurs présents sans se dire que les animateurs bénéficient eux aussi de cet apport et ils sont en plus très volontaires pour le faire, ils ont envie de découvrir, ils sont preneur de toute information. Et bien sûr que cette opération, elle passe aussi par la formation des animateurs pour qu'eux puissent retransmettre et puis s'approprier aussi cette opération.
Est-ce que c'est une manière finalement de faire perdurer une manifestation que d'envisager son rayonnement au-delà même des enfants, au-delà même des centres de loisirs?
Alors pas seulement une manifestation, c'est aussi un principe, justement, le principe de l'éducation artistique et culturelle, de l'action culturelle, c'est de ne pas toucher un seul public, mais de toucher large, et de se dire que ça va rayonner, mais pas uniquement l'événement, c'est vraiment se dire qu'on permet aux gens de ressentir des émotions artistiques, et ça ne s'arrête pas aux enfants, bien sûr les animateurs, bien sûr les familles aussi sont concernées. Et justement, dans ces pratiques artistiques que vous proposez, dans ces ateliers, est-ce qu'il y a une ligne, une thématique où c'est variable? Ça peut être de la danse, du théâtre, de l'expression corporelle ou plastique. Et voilà, est-ce que vous avez travaillé une ligne artistique ou c'est en fonction des projets d'animateurs ou de secteurs de quartier?
Alors, le thème, il est l'expression corporelle. Mmh. Vraiment. Donc après, les formes, elles peuvent être diverses et variées. Donc c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de danse, en particulier de la danse contemporaine. On retrouve aussi du clown, de l'expression clownesque pour que le corps s'exprime, mais aussi du théâtre d'ombre, où le corps est en jeu directement. Donc vraiment, la thématique, elle est la même depuis 5 ans, mais elle est tellement diversifiée dans ses applications qu'on pourrait encore avoir 40 éditions, je pense, de la fête aux pieds. C'est l'expression corporelle.
Oui, et puis c'est aussi un lieu emblématique sur cette présentation et qui apporte, je pense, beaucoup aussi à cette journée. C'est donc dans le parc de Trangis, où c'est un lieu lui-même qui porte déjà quelque chose, d'une expression aussi.
Alors, c'est un lieu magnifique et très vivant en plus. Mm. C'est un lieu qui vit, moi, pour y passer une bonne semaine juste avant la fête aux pieds. Il y a un passage important de gens et ils sont heureux de voir qu'il y a des événements qui se passent dans ce parc, qui est magnifique. Hein. Mm-hmm. En général, quand je contacte des compagnies et que je leur donne des éléments sur leur venue à Évreux et que je leur donne des photos du parc de Trangis, je ne vais pas trop les forcer à venir après. Ils sont plutôt contents de venir. Il y a un bel entretien en plus des espaces verts sur ce lieu, un tout petit château, mais qui est rigolo et chouette à regarder, qui est en pleine rénovation, qui va être très très beau cette année. Mm-hmm. Et oui, donc le parc nous aide aussi
à apporter aussi ce projet.
À embellir cette journée.
Et c'est aussi un élément extérieur, puisque le parc, enfin la majeure partie des présentations se propose à l'extérieur. Alors comment ça s'adapte, le fait aussi de travailler
en Normandie, en extérieur?
Et au mois de mai.
Pas seulement, c'est sûr qu'on prend toujours des risques. Non, mais j'imagine que la présentation, enfin les ateliers se préparent aussi en intérieur, dans des salles, qu'il y a sûrement des temps d'adaptation sur le lieu même à un moment donné.
Alors non, on fait tout à l'extérieur, même en décembre. Non, c'est pas vrai. Oui, bien sûr, il y a des temps d'atelier.
Ça peut être un projet.
Un peu comme au Japon, voilà. Les enfants répètent en slip dehors en décembre. Non,
vous
non,
savez
pas du tout.
Petite parenthèse, en Islande, la sieste de chaque bébé est faite à l'extérieur.
Ah, en Islande.
En Islande. Voilà, c'est culturel et ça aguerrit l'enfant à sa future vie extérieure du pays.
Ça vous donne des idées, Cécile, du coup, pour les saisons prochaines, non?
Et il y a plein de choses qui se passent en extérieur, du coup.
Alors, tout d'abord, il y a un postulat, c'est qu'il fait toujours beau le jour de la fête aux pieds.
C'est vrai.
Voilà. Donc ça,
on l'a tous constaté.
Moi, je sais que c'est un souci que je n'ai pas à voir, c'est est-ce qu'il va faire beau le jour de la fête aux pieds? Oui, il fait toujours beau. Alors, sur la préparation, bien sûr, il y a toute une partie qui se fait dans des locaux à l'intérieur pour tous les ateliers. Il y a aussi, bien évidemment, une répétition générale pour les enfants qui, cette année, aura lieu le 15 mai, où ils vont tous répéter sur site, parce que c'est primordial qu'ils puissent vivre une répétition à l'endroit où ça va se faire, pas dans les conditions puisqu'il n'y a pas le public, mais déjà pour eux c'est un grand pas que de passer du gymnase de leur centre ou de leur école où ils répètent habituellement à un parc qui est ouvert et grand. Et le deuxième saut, c'est quand il y a le public le dimanche. Et puis les compagnies, bien sûr, viennent aussi, elles, répéter sur site. Et en général, il fait beau puisqu'on est en mai.
Et puis vous l'avez dit, la fête aux pieds, c'est forcément signe de beau temps.
Toujours.
On parle depuis un petit moment de propositions, d'une série de propositions proposées, de prestations proposées, voilà, je vais trouver mes mots, par les enfants ou par les professionnels, mais pour y avoir été plusieurs années, il y a aussi de la manipulation artistique proposée au public. C'est-à-dire qu'il y a, il y avait notamment à une époque de la manipulation d'instruments, il y avait des petites cabines privées, je sais qu'une fois, une cabine qui avait grand succès, c'était la cabine tenue par des clowns où les enfants apprenaient à nager, les enfants du public.
Nager sans eau.
Voilà, ils nageaient sans eau, exactement. Il y a un tas de choses comme ça qui sortent de la présentation de spectacle et qui sont vraiment dans la manipulation, dans l'expérimentation par le public aussi.
Dans l'interaction.
Dans l'interaction, voilà, c'était le mot que je cherchais, merci.
Mais je pense que ça fait partie de toutes les manifestations qui travaillent un peu autour des arts de la rue. Je pense que le public, c'est nécessaire aussi, puisqu'on est, je le disais, on attend que les enfants participent, que les enfants soient sensibilisés. Les parents, les familles, mais bien sûr que le public qui vient, on va pas considérer qu'il a rien à dire, qu'il a rien à faire et il prend part à ce qui se passe. Alors après, les propositions sont diverses et variées puisque on travaille avec les compagnies locales tout au long de l'année pour réfléchir à ce qui va être proposé pour de la fête au pied. On a quand même la grande chance que chaque année, ils nous proposent une création d'atelier. Par exemple, la natation sans eau, ça a vraiment été inventé pour de la fête au pied. Cette année, la compagnie Étincelle Bouillasse, qui avait inventé la natation sans eau, a encore une petite invention particulière à nous proposer. Une démonstration d'odeur.
Une démonstration d'odeur.
Qui sera totalement interactive.
C'est bien d'être en extérieur, moi je dis.
Rien que dans les titres annoncés, ce sont des quasi inquiétants. Hein, l'apprentissage de à nager sans eau.
La démonstration d'odeur.
Oui, on imagine bien que ce sont des titres presque inquiétants.
Les odeurs, alors, je ne vois pas en quoi ça peut être inquiétant. Alors c'est vrai que c'est un peu de la fête aux pieds.
Voilà,
bon,
c'est ça.
Mais on n'aura pas que des odeurs de pieds, je l'espère. Moi, je laisse. Il y a quand même une partie artistique, et je pense que c'est primordial quand on travaille avec des artistes que je leur laisse. Donc. Moi, je peux en dire ce que j'en sais, ce qui m'appartient, voilà. Le reste, c'est les artistes concernés qui le déclineront le 26 mai tout au long de la journée, qui déclineront leurs odeurs, corporelles en particulier, et celles du public, ça laisse des surprises.
Et puis, on les laissera nous surprendre, puisque les artistes sont là pour nous surprendre aussi,
ça c'est sûr.
En parlant de démarches artistiques, justement, sur les présentations des enfants, il y a eu une démarche artistique qui s'est mise en place depuis janvier. Comment elle s'organise? Est-ce que les enfants sont réceptifs à une démarche artistique? Certains, c'est la première fois, ils sont sûrement sur leur première expérience artistique, non? Comment ça s'enclenche avec des enfants?
Alors, on est quand même sur la 5e édition, donc on a un public en accueil de loisirs qui varie, mais qui quand même a une régularité. Donc, on a des enfants pour qui c'est peut-être la deuxième ou troisième expérience d'intervention différente. Alors peut-être qu'ils ont eu déjà de la danse l'année dernière, ils en ont cette année. Il y en a pour qui c'est une nouvelle expérience. Et à chaque fois, ça fonctionne vraiment bien. Ils ont envie de revenir. Il y a des enfants que les parents inscrivent exprès en accueil de loisirs pour pouvoir suivre le projet, parce qu'il faut quand même une régularité pour pouvoir avoir une présentation. Il y a des enfants qui attendent les ateliers de la fête aux pieds, qui demandent quand ils vont avoir lieu pour pouvoir y participer. Et puis les plus petits qui participent pour la première fois découvrent et en général apprécient, parce qu'on essaye vraiment aussi avec les artistes qui participent au fur et à mesure des années d'avoir un contenu qui soit adapté aux accueils de loisirs et à la manifestation. Et les animateurs, qui le vivent depuis 5 ans, connaissent eux aussi de mieux en mieux. Et les attendus artistiques, le contenu des ateliers et le contenu de la manifestation.
Mais du coup, les enfants, c'est une démarche dans laquelle ils vont facilement, j'imagine, à moi, si on me demandait d'avoir une démarche artistique comme ça pour une présentation, voilà, je n'y arriverais pas forcément et ça m'effraierait.
Un petit pas de danse,
comment est-ce que les enfants, justement, appréhendent les choses? Est-ce que c'est plus simple, justement, avec les enfants?
C'est toujours plus simple avec des enfants. Ils restent ouverts. Forcément, à certains âges, alors c'est avec des 3, 4, 5 ans, 6 ans, ils sont ouverts à tout. À partir de 8, 9 ans, ils commencent à avoir un peu d'a priori sur des choses. Il est clair qu'on retrouve plus de filles en danse que de garçons, mais on arrive quand même à trouver les garçons. C'est aussi, ça fait partie justement de toute la sensibilisation que d'expliquer à des garçons qu'on a en accueil de loisirs que la danse, c'est un univers sensible, on laisse ses émotions parler et que ça veut pas forcément dire qu'on va être homosexuel et qu'on va... important comme discours aussi.
Sur la représentation, bien sûr, de la danse.
Oui.
Dans notre pays, nos sociétés, oui.
Un peu toutes les activités artistiques où le corps est en jeu, où on se dit, en tant que garçon, dans la société, dans la culture, ça va être difficile, moi, de me montrer, d'exprimer des choses tout court, mais avec mon corps. Mmh. Et ça fait vraiment partie du travail qui est de fond, qui avance au fur et à mesure. Ouais.
J'imagine que c'est une question que je me pose, hein, parce que ça travaille sur moi aussi une régularité de la venue des enfants, de certains enfants sur ces projets-là, puisque c'est la conception que j'ai des centres de loisirs. En général, on met son enfant un mercredi, pas l'autre mercredi, telle vacances, mais pas telle autre. Du coup, construire aussi un projet sur des enfants qui sont peut-être pas toujours là ou là ou pas là, c'est comment vous travaillez? Travaillez sur l'implication au départ ou...
Alors, on a quand même la chance d'avoir un personnel d'animation qui est permanent, référent, et qui connaît bien les familles, qui connaît bien les enfants. Donc, on a en général une à deux premières séances d'initiation, puisque justement, c'était la question posée par Monsieur JC. C'est comment les enfants appréhendent ce type d'activité. Donc, ils peuvent découvrir sur une à deux séances avant de s'engager. Parce qu'ils ont, bien sûr, le droit à la parole. C'est pas, on n'a pas 12 inscrits, c'est les 12 premiers. Donc, ils découvrent, en général, un groupe plus important que celui dont on a besoin. Et puis après, ils décident et puis on discute avec eux, ils s'inscrivent. Et là, on a une démarche avec les parents, ils ont attention. Là, votre enfant a décidé de s'inscrire pour une activité pour de la fête aux pieds. Donc, il y a une présentation le 26 mai, il y a une répétition générale et on leur donne des documents. Moi, je dis toujours aux parents, attention, vous le découpez, vous le mettez sur votre frigo avec un magnet et vous regardez bien les dates. Et ça fonctionne.
Et ça fonctionne. Donc, ça veut dire aussi
que... Le frigo a été inventé pour ça.
Mais oui. Et pourquoi d'autres?
Bien, oui. Donc, j'imagine aussi, du coup, ça touche les parents, ça touche les familles. Et
oui,
ça implique...
Cette année, on a même un projet dans lequel les familles dansent avec les enfants. Mathilde Lahaute mène un projet sur les accueils périscolaires. Alors, Monsieur JC a failli danser cette année, mais je crois qu'il avait un problème physique à l'orteil qui l'en a empêché, malheureusement.
Bien dommage.
Mais donc, il y a les accueils de Jean Moulin et de Victor Hugo. Pendant la fête aux pieds, on verra des parents et des enfants danser ensemble. Et c'est... moi, j'ai trouvé ça relativement émouvant. Je suis allée sur plusieurs séances. Là, j'ai vu les dernières. Ça provoque, je pense, chez chacun d'entre nous quelque chose de voir des parents et des enfants qui dansent ensemble, qui ont un rapport dans une activité où ils prennent vraiment du plaisir à être ensemble, à jouer ensemble dans la danse. Et il se passe un rapport qui est encore différent de celui qu'on peut avoir entre les enfants. Donc, très beau, quoi.
Est-ce que vous pouvez du coup développer un petit peu la programmation? On a entendu comme ça Étincelle Bouillasse, Willy Max, Mathilde Lahaute. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Alors en détail, donc les compagnies de danse qui sont accueillies cette année, eh bien, on va commencer par la compagnie qui est accueillie en partenariat avec la scène nationale Évre-Louviers, c'est la compagnie S'émouvoir, Céline Lefebvre qui présentera Ma leçon de hip-hop. Une forme de dis-moi Mademoiselle Rimbaud si vous avez des détails, mais une forme de one woman stand-up show un petit peu, où elle présente l'histoire du hip-hop en dansant mais aussi en expliquant ce que c'est de façon très ludique et participative.
Et ben voilà, même pas besoin d'aide Madame Bordier.
Nous avons ensuite la compagnie Monsieur K, c'est de la danse-théâtre, ils viennent d'Annecy avec deux pièces, 2 à 3 et Tout va bien Monsieur K, 2 à 3 étant la suite de Tout va bien Monsieur K, avec deux personnages, un homme et une femme, une qui est plutôt danseuse, l'autre plutôt comédien, et on voit que finalement, celle qui était danseuse devient comédienne, et celui qui était comédien devient danseur aussi, avec beaucoup d'humour, et pareil, un appel à la participation. Une compagnie de danse orientale contemporaine, et oui, ça existe, la danse orientale contemporaine, qui nous vient de Marseille, la compagnie Karine Galmi, qui sera accompagnée par des musiciens en live, alors avec des noms d'instruments que je ne connais pas. Il y a du oud, il y a du violoncelle, le reste, je ne sais même pas ce que c'est. En quoi c'est, ni quelle forme ça a. La compagnie Alfred Alert, qui vient de la Nièvre et qui propose une forme déambulatoire de danse contemporaine. Alors eux, ils ont eu un atelier pendant les vacances de printemps avec des enfants qu'ils vont intégrer. Ils vont présenter 3 fois leur prestation dans la journée, dont 2 fois où ils la présenteront en ayant intégré les enfants des accueils de loisirs dans leur prestation. C'est complètement mélangé. Alors eux, ça s'appelle Exhibus. C'est avec des costumes assez rigolos à base de tuyaux de hotte ou de choses comme ça. Voilà, donc les ballets Willy Max, qui est une compagnie locale, avec Mathilde Lahaute, et aussi une pièce afro présentée par Jean-François Michel. J'ai peur d'oublier en disant tout. La compagnie Étincelle Bouillasse, qui nous présente des odeurs, ouais, chouette, nos odeurs, mais aussi du théâtre d'ombre. Donc le théâtre d'ombre qui aura lieu dans le château, on a un peu un château en ombre cette année, avec 2 propositions. La deuxième, c'est la compagnie Les Petits Disports en ombre, avec Scène de Bête, une toute nouvelle compagnie locale. Une demoiselle charmante qui présente une histoire c'est des petits animaux, c'est un très jeune public, très joli et aussi avec de l'humour. Nous avons la compagnie 2, elle va nous proposer d'écrire des slogans poétiques. La demoiselle de la compagnie 2, bien connue de la scène nationale. Le musicobus de la MJC d'Évreux sera présent. Alors pour, comme d'habitude, un atelier interactif, mais aussi alors quelque chose à découvrir, du sound painting. Mmh. Et oui, peindre du son.
J'en ai fait un en atelier.
Ah,
c'est génial.
Si vous pouvez, Mlle Dionis, expliquer.
Le sound painting, c'est une technique. En fin de compte, c'est une technique corporelle. De son corps, on dégage un son. On compose une phrase musicale en tapant soit sur son omoplate ou ses mains ou ses joues. On peut jouer. Notre corps est un vrai instrument, mais c'est dirigé. C'est comme une chorale instrumentale et corporelle. Donc, il y a un chef d'orchestre qui, avec un code, parce que c'est écrit, Il y a vraiment toute une lecture, une écriture du sound painting avec des signes qui dit voilà, quand le chef d'orchestre fait un rond avec ses doigts, ça veut dire que l'ensemble, le chœur va taper à tel endroit ou faire tel son. Et il joue de ça, c'est-à-dire que la chorale apprend ce langage. Et du coup, le chef d'orchestre peut composer, mixer à l'envi avec le chœur.
Donc on aura deux ateliers de sound painting menés par Davy du Musicobus, avec deux moments d'atelier interactif où il emmènera les gens pour apprendre ses codes, pour apprendre ses gestes, et puis deux moments de retransmission au public. Alors, je ne veux pas faire peur aux gens, allez-y quand même, mais ouais, c'est vrai qu'il y aura un moment de retransmission au reste du public.
C'est une petite parenthèse, et je trouve ça super génial, parce qu'en même temps, on peut s'exprimer corporellement, jouer de la musique, mais on peut être aussi chef d'orchestre, composer. Il y a vraiment, chacun peut le faire. Si on a la base de ce langage, vraiment, on peut être interprète, comme on peut diriger, on peut intervertir. C'est très dynamique, en fin de compte.
Un langage universel.
Ouais.
Et je crois que, alors je suis venue sans papier, mais je crois que j'ai pratiquement fait le tour. Il me resterait peut-être à évoquer les plasticiens qui travaillent sur la manifestation, parce qu'on est sur du fond, on est aussi sur de la forme, que ce soit beau à tout niveau. Donc Christian Franchetot et Christiane Muller. Christiane Muller qui tiendra un atelier l'après-midi, qui nous donnera la possibilité de mettre des mauvaises herbes dans le parc de Trangis. On en parlait, il est tellement beau, donc pourquoi pas l'envahir de mauvaises herbes.
Riche idée. En tout cas, je crois qu'on a appris beaucoup de choses sur cet événement, la fête aux pieds. Il ne reste plus qu'à y aller le 26 mai sur le parc de Trangis, le dimanche 26 mai.
10h-18h30. Avec le soleil, bien sûr.
Merci Cécile.
Bien entendu. Nous avons une tradition, quand nous avons un invité avec nous, nous lui demandons de préparer la pause musicale qui suit. Que nous avez-vous préparé, Cécile?
Alors, c'est Kings of Convenience, c'est I'd Rather Dance With You. Je préférerais danser avec vous. Ça me paraît cette circonstance.
Eh bien, c'est parfait.
Cradle me, or cradle you, I'll win your heart with a woo-woo. Pulling shapes just for your eyes, sew with toothpaste, kisses and lines. I'll be yours and you'll be, lay with me, I'll lay with you. We'll do the things that lovers do. Put the stars in our eyes, and with heart-shaped bruises and late-night kisses, divine.
Carole Prugnot, vous
bonjour.
M'entendez? Bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir comme invité aujourd'hui pour nous parler du spectacle La Confusion que vous avez mis en scène et dans lequel vous jouez également.
Bon, je vais vous présenter en quelques mots, mais après, on est vraiment dans l'échange. Donc, vous êtes metteuse en scène, comédienne, vous êtes jeune. Vous intéressez essentiellement à des textes d'auteurs d'aujourd'hui, contemporains.
Oui, tout à fait.
Je pense à Un siècle d'amour que vous avez mis en scène d'après la bande dessinée de Enki Bilal et de Dan Frank, ou encore les nombreux textes de l'écrivain Eugène Durif que vous avez également mis en scène. Mais vous aimez la performance. Je me souviens, et on vous connaît à Évreux essentiellement pour notamment cette fameuse Princesse Parking qui avait été donnée en 2009 lors de la Grande Veillée dans le parking souterrain de la mairie. Ça a laissé beaucoup de traces. Et donc voilà, vous êtes vraiment dans un univers où vos spectacles sont très visuels, sonores, charnels, réalistes. Donc là, vous vous attachez à La Confusion, un texte de Marie Limier. Alors, je crois que ce n'est pas votre première collaboration avec cet auteur.
Non, effectivement, en fait, c'est vrai que le début de notre collaboration, en fait, ça a été justement suite aux manifestations de la Grande Veillée, où on avait commencé dans la halle au Poisson du Havre, une première forme qui s'appelle La Petite Annonce. Et donc, du coup, suite à ça, en fait, on a créé ce triptyque autour de Blanche-Neige. Comme on voit Blanche-Neige partout, du coup, on a fait un triptyque qui s'appelle Pour en finir avec Blanche-Neige. Et donc, du coup, c'était à chaque fois dans des lieux assez atypiques, comme cette halle au Poisson, où effectivement, le parc King, souterrain, ou alors ça a pu être les sous-sols des galeries Lafayette aussi, de Rouen. Et donc du coup, en fait, l'idée c'était vraiment de travailler à la fois sur cette figure de, ben, un peu du rêve de l'enfance, du conte, et d'associer à chaque fois avec un artiste contemporain qui l'a lui-même revisité et travaillé. Et donc du coup, effectivement, en travaillant avec à la fois un travail sur l'installation, comme une installation d'art, mais animée avec à la fois des voix, des corps. Donc c'est vrai que dans le parking, c'était un cascadeur sur moto qui avait beaucoup travaillé pour Arcaos. Et puis il y avait aussi une quinzaine d'amateurs qui faisaient des clones de Blanche-Neige. Et donc effectivement, donc, du coup, ce texte-là, La Confusion, c'est le premier texte théâtral de Marie Limier. Donc c'est pour ça que c'est elle qui m'a demandé de le mettre en scène. Et donc du coup, en fait, ce qu'on a essayé, c'est de continuer tout le parcours qu'on a eu donc suite à ce triptyque autour de Blanche-Neige. C'est-à-dire qu'à chaque fois, rentrer dans l'univers de l'enfance, parce qu'en fait, elle parle de souvenirs de son enfance, quoi, dans sa maison de campagne, une histoire d'amour impossible avec son frère, qui n'est pas tout à fait son frère, puisque c'est le fils de son beau-père. Et une histoire très très forte l'un et l'autre. Et donc du coup, elle revisite un peu ses souvenirs. Donc là, à la fois, on a continué à travailler sur ces codes de l'imaginaire de l'enfance. Donc au départ, on découvre ce personnage dans un sol rempli de nounours. Donc elle fait partie de cet univers un peu de nounours, comme si elle-même en était un qui s'éveillait. Elle parle à son chien, Kiki son chien, qui finalement, on se rend compte au fur et à mesure que le chien est mort depuis longtemps, parce qu'en fait, elle a une soixantaine d'années, a priori, cette femme. Et donc en fait, elle revisite ses derniers souvenirs avant de mettre fin un peu à ses jours. Donc c'est vrai que c'est pas très 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 joyeux, mais tous les souvenirs sont joyeux parce qu'elle fait revenir son frère dont elle était amoureuse, et qui finalement on se rend compte au fur et à mesure aussi que son frère finalement ça a été un peu la seule femme de sa vie, puisqu'après il s'est retourné un peu vers les hommes. Donc effectivement, on travaille aussi avec deux musiciens sur le plateau. Donc Bobix, qui a fait la création musicale et avec lequel je travaille depuis 8 ans, depuis que j'ai commencé à faire du théâtre, donc à la fois que ce soit dans le théâtre ou dans la performance, et un autre musicien qui d'habitude fait du tambour japonais, qui s'appelle Fabien Canou, et qui là fait de la batterie, et donc ils sont aussi intégrés dans l'univers du spectacle. Et en fait, l'idée c'est de travailler comme si elle était toute seule vis-à-vis d'elle-même. Donc tous les personnages sont le même visage qu'elle, et donc ils sont tous habillés pareil. Donc au fur et à mesure où elle évolue, ils évoluent en même temps qu'elle, comme si elle se parlait à elle-même tout le long du spectacle, en fait.
Ce sont comme des échos et des miroirs d'elle à différentes périodes de sa vie, ou...
Voilà, tout à fait. Au fur et à mesure où ses souvenirs évoluent, donc elle fait revenir ça fait revenir les personnages voilà, qui font partie de ses souvenirs. Et donc du coup, ils évoluent, ils ont les mêmes couleurs qu'elle, comme si à la fois en même temps, voilà, il y a un acteur qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Xavier Berlioz, avec qui je travaille aussi depuis un petit bout de temps, et donc qui est du coup qui incarne cette image du frère et donc du coup de cet amour impossible. Et donc lui, c'est pareil, au départ, ils arrivent, ils sont costard, cravate, avec ces masques, des gros masques de chien qui incarnent aussi le chien auquel elle parle.
Qui est un personnage de la pièce.
Voilà, qui est un personnage de la pièce. Voilà, qui est comme dans un cadre, en fait, comme souvent des fois certaines personnes âgées qui des fois soit empaillent leur chien ou ont leur photo de leur chien à côté de leur table de nuit et qui deviennent leur interlocuteur principal. Et donc du coup, en fait, ces personnages-là, au départ, ont ce visage du chien et au fur et à mesure deviennent vivants et incarnent et voyagent dans les souvenirs de l'interprète, du personnage, en fait.
Et on sent que vous donnez un univers très coloré, très réaliste. Il y aura des pluches, des chiens. On note un petit peu aussi un univers très japonisant. Enfin, pourquoi c'est votre univers à vous, là, que vous mettez
Oui, c'est aussi l'univers, c'est aussi le mien aussi. Parce qu'en plus, on a, c'est vrai que j'avais fait tout un travail aux subsistances à Lyon. Ouais. Ça s'appelait Kawaii Hentai. Donc, Kawaii, ça veut dire mignon, enfantin, c'est l'univers de l'enfance. Hentai, en japonais, ça veut dire plutôt érotique, trash, porno. Et c'est vrai qu'au Japon, ils ont souvent, ils revisitent pas mal l'univers de l'enfance, mais avec leur regard d'adulte. Et on avait fait tout un travail, donc un déambulatoire, sur cet univers-là, autour de l'univers un peu manga aussi. Et donc du coup, c'est vrai que dans cet univers d'enfance plus contemporain, il y a des petits échos de ça à certains moments. Mais c'est vrai que du coup, c'est un va-et-vient aussi. Donc au fur et à mesure, effectivement, au départ, on découvre ce personnage vraiment dans cet univers complètement enfantin, qui au fur et à mesure devient adulte et du coup qui se retrouve aussi face au réel et à sa solitude aussi. Le temps du spectacle dure le temps d'une machine à laver.
Oui, c'est ce que ça... elle lave un peu son linge aussi.
Voilà, comme si elle avait tous ses souvenirs dans sa machine. Donc au fur et à un moment donné, tous ses nounours, ça va les mettre dans la machine. Elle évacue en fait tous ses souvenirs pour revenir un peu qui elle est maintenant, c'est-à-dire revenir au réel en fait. Donc toute cette machine devient une espèce de lave tous ses souvenirs, quoi, de passeuse, toute l'idée du passage de l'enfance à aujourd'hui, quoi, à là où elle en est maintenant.
Bien, c'est un spectacle qui nous intrigue, nous donne aussi envie, parce qu'on sent qu'on connaît votre univers, hein, qui est en décalage, qui est aussi intègre le son. Je trouve que la musique chez vous aussi a une place assez importante, et là, d'avoir les musiciens sur le plateau, on a hâte de voir aussi comment ça s'intègre au texte.
C'est vrai qu'on a détourné aussi tous les objets du quotidien, notamment même les fer à repasser, parce qu'en fait, elle repasse son linge comme elle repasserait aussi ses souvenirs, tout mettre au propre, tout mettre au clair. Donc on la voit en train de repasser ses nounours. Et donc du coup, tous les univers tous les objets du quotidien aussi sont détournés. Par exemple, les fer à repasser deviennent aussi une matière à faire du rythme et de la musique aussi. Donc on utilise aussi vraiment tous les objets du quotidien qu'elle pourrait avoir autour d'elle. Donc voilà, pour en faire son univers aussi musical et aussi visuel, du coup. Il y a la couleur bleue aussi qui est très présente.
Oui,
tout est en bleu, parce qu'en fait, il y a eu le fameux accident de leur beau-père avec qui est mort avec une voiture bleue. Donc le bleu, en fait, devient aussi la couleur dominante du spectacle, en fait, qui est présente partout. Donc voilà, mais c'est aussi cette histoire-là aussi parle aussi beaucoup de l'histoire de Marie aussi, de l'auteur. C'est aussi très proche d'elle, parce que c'est aussi l'histoire de son propre père, Roger Nimier, qui était un très grand auteur, qui est mort quand elle avait 5 ans. Et dans sa tête, Marie, elle a toujours eu l'impression qu'elle allait rejoindre son père. Et donc notamment ce rapport à la princesse aussi, elle entendait une voix, elle était persuadée qu'elle allait le rejoindre. Et à l'âge de 20 ans, en fait, elle a mis une robe de princesse et elle s'est jetée d'un pont à Paris. Et en étant persuadée, pour elle, c'était joyeux. Ce n'était pas un rapport à la mort, c'est quelque chose de joyeux. Et c'était d'un pont, mais comme elle avait, en fait, il y a des canotiers qui l'ont vu flotter et qui l'ont
rejeté. Qui l'ont rattrapé par la robe.
Et c'est depuis ce temps-là qu'elle a commencé à écrire. Finalement, c'était une autre façon aussi de rejoindre son père. Et donc ce texte-là, entre autres, et des
personnes.
Parle aussi de cette histoire-là aussi, de son histoire à elle.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Karel, de nous avoir parlé si précisément de ce spectacle. La coutume de notre émission veut que notre invité choisisse un morceau et présente un morceau musical. Et là, je crois que vous avez justement choisi un extrait du spectacle.
Oui, c'est un moment d'ailleurs justement où c'est un moment donné où la comédienne va mettre tous ses nounours dans la machine à laver. Donc c'est un moment très très un peu rapide où très rapidement elle va tout vider le plateau de ses nounours. Donc voilà. Et les chiens vont apparaître, les chiens fantômes.
C'est donc la démence des peluches.
Voilà.
Merci Karel. On vous retrouve donc le 17 mai à Évreux au Cadran.
Et va dans la patience.
Merci, nous aussi. Au revoir. Au revoir.
Effectivement, Nathalie, nous entendions le chien sur ce morceau, La démence des peluches. Voilà, en tout cas, un spectacle...
Ah oui, un sacré univers hein, qui présente Karel, qui intrigue, mais qui est vraiment visuellement très, très, très déroutant, mais super intéressant.
Moi, je disais que j'ai déjà vu un spectacle à la scène nationale avec un nounours, c'est celui de Didier Super.
Ah oui, bah, c'était dans une autre catégorie.
Exactement.
Rien à voir.
Rien à voir.
Dire.
Pas la même provocation. Alors,
nous avançons et nous souhaitions faire un focus, sur Face Nord.
C'est ça, on va se faire un petit focus, on a eu envie parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas programmé du cirque à la Madeleine, sous la halle du marché. Alors qu'on se le dise, hein, là, on est très très loin des représentations qu'on peut se faire du cirque. Il n'y a pas de chapiteau. Il y a pas de lion, il y a pas de clown, la piste n'est pas ronde et pourtant c'est du cirque. Voilà, ça s'appelle Face Nord par la compagnie Un loup pour l'homme. Alors c'est du cirque parce que il y a des acrobates.
Voilà, hein,
je vois que ça réagit
quand même
en face de moi.
Mais c'était une question que j'allais te poser, Cécile, parce qu'on parle de cirque contemporain. Mais alors, s'il ne reste plus rien au code du cirque, où retrouve-t-on cette notion de cirque?
Alors, en fait, la notion de cirque, elle a beaucoup, beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, la piste, elle n'est pas forcément ronde. Le spectacle de cirque, aujourd'hui, il fait appel à un scénario et ce n'est pas juste des numéros comme ça qui succèdent. Il y a pas ou très peu d'animaux. Voilà, j'insiste sur les lions parce qu'on a quand même rigolé en préparant l'émission, parce que c'est vrai, voilà, on voit plus très peu de numéros de dressage aujourd'hui dans les nouveaux cirques. Et il y a beaucoup de passerelles en fait qui sont créées avec les autres arts, tels que le théâtre et la danse, chose qui n'existait pas dans le cirque, ou qui existe très peu dans le cirque traditionnel. Tout ça, en fait, pour créer une espèce de poésie, de lien aussi pendant tout le spectacle. Ce spectacle, Face Nord, donc... Par face nord, il y a l'idée un peu de la face cachée des choses, la grande difficulté aussi, parce qu'il y a une extrême rudesse dans ce spectacle. Ce sont quatre hommes qui vont, comme ça, dans un premier temps, s'affronter. Ils se font face. Voilà. Et puis, de leur rencontre, de cet affrontement finalement, de cette a priori violence qui va apparaître, eh ben, c'est la douceur qui va prendre le pas dessus. C'est la douceur dans le porté, dans la rencontre des corps. C'est ça qui va apparaître, l'humanité en fait entre ces hommes, qui va aller dévier en fait les lois de la pesanteur, les lois de la physique, parce que ça reste du cirque, je l'ai dit, puisque c'est des portées à main nue. Donc ça veut dire quatre hommes qui vont devant nous multiplier les figures acrobatiques, mais au-delà de ça, qui vont aller, chercher l'humanité en fait. À quoi ressemble le corps à corps, mais quand il n'y a pas d'agressivité, quand justement on travaille à éviter cette agressivité. Et puis surtout, le jeu. Se faire plaisir, la ludicité, c'est ça aussi Face Nord, c'est retrouver un peu, je trouve que ça va bien avec la thématique de l'émission aujourd'hui, retrouver un peu l'enfant qui est en nous et le plaisir de jouer, de s'amuser ensemble, voilà, juste avec des règles, parce que bien sûr il faut respecter les règles, parce que c'est ce qui va sécuriser en tout cas pour les artistes de cirque leur réalisation, les acrobaties, mais le plaisir de d'aller au-delà de ses limites en fait, ou en tout cas de chercher où sont ses propres limites. Voilà, c'est un spectacle d'une très grande poésie. La compagnie s'appelle Un loup pour l'homme. Ils font un travail exceptionnel. Moi, je vous recommande d'aller sur leur site. Là, leur prochain spectacle, en fait, ils travaillent la relation avec les personnes âgées. Comment justement l'humanité se crée avec les personnes âgées et comment, avec des personnes âgées, on travaille sur des acrobaties. Sur des portées. Ouais, voilà. Moi, j'ai été...
Le contact.
Voilà, le toucher, le contact, tout ça, moi, j'ai trouvé le travail, en tout cas, très intéressant. Et puis, ce sera à la Madeleine, dans la Halle du Marché. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas investi ce lieu. Mm-hmm. Donc, on vous y attend pour une vraie soirée de poésie, de tendresse. Voilà, c'était le petit côté un peu fleur bleue aussi de l'émission.
22-23 mai.
Merci, JC, c'est ça.
20h30, les Halles de la Madeleine.
Exactement.
Nous repartons en musique, si cela vous convient, avec un titre encore très varié de Chlorine Free. We'll be right back. Florine Free avec le titre. Ben non, il est passé sous mes yeux. Je ne vous le retrouverai pas. En tout cas, vous pouvez chercher Florine Free si ça vous intéressait. En tout cas, moi, ça m'a fait, voilà, ça me fait toujours plaisir d'écouter ce type de morceau.
Eh bien.
Non, mais voilà, c'est
juste. Je partage, voilà. Bon,
vous
bonne programmation.
C'était une programmation de ma part. Voilà, c'est, non, mais dans
bonne programmation sonore.
Vient avec ses morceaux. Cécile, vous aussi, vous l'avez fait.
Tout à fait, j'ai fait un morceau qui... J'ai proposé un morceau de plus de 48 secondes.
Voilà, et ce qui était une performance.
Tout à fait,
pour notre émission d'aujourd'hui.
Pour l'émission d'aujourd'hui. Et pour une Cécile.
Je me vengerai. Tu nous proposeras un morceau de 3 minutes 50 la prochaine fois.
Exactement.
Il est temps de retrouver... J'ai envie de dire l'agenda, mais il n'est pas exhaustif. Donc, en tout cas, les
rendez-vous,
les
rendez-vous, manqué,
voilà, que nous,
dans le mois.
Que nous sur lesquels nous souhaitons attirer votre attention. C'est bien dit comme ça. Je souhaitais commencer avec le festival Les Soirées du Caméléon à Val-de-Reuil, qui se déroule du 7 au 11 mai, sur le week-end de l'Ascension, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, sur les jours fériés de l'Ascension. Avec le 7 mai, une soirée d'ouverture avec notamment les groupes de l'École de musique de Val-de-Reuil, ce qui est toujours intéressant, voilà, de voir les productions locales, le travail des élèves de l'école de musique, notamment, avec bien entendu des surprises et notamment, non, je peux pas vous en dire trop. Voilà. Ensuite, dans la programmation, le 8, Émilie Loiseau, le 9, Trio Zéphyr et Electric GEM. Ça, c'est un groupe que je vous recommande particulièrement, que j'avais vu il y a 3 ans, je crois, au Théâtre des Chalands. Une espèce de, comme on dit, une tarte musicale dans la face. Hein. Le 10 mai, les enfants de solo, et le 11 mai, nouvelle nocturne et les yeux de la tête.
Pour continuer dans la programmation, concert de jazz à Louviers également.
Exactement, du 5 au 9 juin.
Alors quand même entre deux, on peut rappeler hein, la confusion.
Oui.
Karel Pruniaud, le 17 mai à Évreux au Cadran. Et puis pour continuer sur le mois de mai... La fête au pied.
Le 26 mai.
Juste avant, face nord, 22 et 23 mai, si on fait de façon chronologique.
Non.
Oui.
Non.
Moi, j'aime bien la chronologie, mais c'est vrai que là, on s'est perdu.
Donc, face nord, sous la halle de la Madeleine.
Face nord, 22, 23 mai, sous la halle de la Madeleine. Et on termine la fête au pied. On l'aura dit plein de fois, c'est une bonne technique, Cécile Bordier.
26 mai, entrée gratuite.
Et moi,
la journée.
Et moi, je rajouterai un petit coup de cœur entre... Avant la fête au pied et en danse, c'est le 21 mai à Louviers au Théâtre du Grand Forum. C'est les diptyques de quatuors de Emmanuelle Vaudine, qui est l'actuelle chorégraphe et directrice du Centre chorégraphique national du Havre et qui propose notamment un beau quatuor, une belle danse des bisous, moi que j'appelle la danse des bisous. Et comment on peut danser ou créer une danse à partir du simple fait de se dire bonjour. Voilà, très ludique.
Et puis, comme la lecture peut être vivante aussi, le 1er juin, le premier festival, le livre dans tous ses états, qui se déroulera autour de la médiathèque. Dans la médiathèque aussi, mais sûrement autour. Nous ne pouvions résister, bien entendu, à ce petit carillon qui nous fait tourner des pages un petit peu à l'image des livres de contes, justement, où il faut tourner la page quand on entend le petit carillon. C'est notre petit carillon. Je voyais vos yeux grands verts.
C'est très inquiet.
C'est notre petite touche d'enfance dans cette
relativement
émission.
Surprenant de voir 3 personnes agitées de droite et de gauche régulièrement.
C'est ce que nous inspire ce tourner de page. En tout cas, l'émission touche à sa fin. Vous pouvez bien entendu retrouver toutes ces informations sur tous les sites internet qui parlent d'événements dans la région. Vous pouvez même en trouver que nous n'aurions pas trouvé.
Oui.
Et n'hésitez pas à y aller du coup.
Pas.
Prochaine émission de Scène de vie, vie de scène, le 7 juin. Nous terminerons bien entendu par notre musique dans le monde, mais avant cela, nous vous souhaitons un bon mois de sortie.
Soyez curieux.
Et pour terminer notre émission, nous vous proposons d'aller faire un tour du côté de la Nouvelle-Calédonie avec la tradition kanak. Nous avons choisi de s'arrêter du côté de ces îles-là et de vous quitter sur de la musique kanak. Au revoir.
revoir.
Take me.